des grands titres de ce dimanche. Le Premier ministre israélien défend les frappes de Tsahal en Syrie et met en garde l'Iran. Les nouvelles concernant le vice-premier ministre Barnaby Joyce et son partenaire Vicky Campion continuent à dominer l'actualité en Australie. Les JO d'hiver et le président sud-coréen invitent, ou plutôt le président nord-coréen invite le président sud-coréen à venir à Pyongyang. Les tensions au Moyen-Orient après les frappes de l'armée israélienne contre les forces soutenues par l'armée iranienne en Syrie, après qu'un avion de chasse F-16 de Tsahal ait été abattu après des raids sur des cibles iraniennes en Syrie. Le point avec Christophe Pagé pour RFI.
Israël affirme avoir mené deux raids ce matin. Le premier en réponse à l'incursion d'un drone, selon elle iranien, parti de Syrie, qui aurait violé son espace aérien. Un drone abattu par un hélicoptère israélien et qui est maintenant en notre possession, affirme l'armée, qui a d'abord frappé le site de lancement du drone. Ces avions ont alors essuyé des tirs de missiles anti-aériens. Un F-16 israélien s'est écrasé dans le nord d'Israël. Un des pilotes est gravement blessé. L'armée a ensuite lancé une seconde vague d'attaques, frappant selon elle une douzaine de cibles syriennes et iraniennes. Cela fait plusieurs semaines que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou met en garde contre la présence de forces iraniennes en Syrie voisine. Depuis 2011, Israël mène ponctuellement des frappes en Syrie, mais c'est la première fois depuis le début de la guerre que l'armée israélienne dit ouvertement avoir visé des cibles iraniennes. Dans un communiqué de leur commandement conjoint, les forces alliées du régime syrien, Hezbollah, Iran et Russie, nient toute violation de l'espace aérien israélien par un drone. Damas défend le droit de la Syrie à l'autodéfense contre les attaques israéliennes et la Russie appelle toutes les parties à la retenue, tout en considérant comme absolument inacceptable de mettre en danger la vie de soldats russes.
Christophe Pagé, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est adressé à la nation sur les actions militaires de son pays. On l'écoute.
I've been warning for some time about the dangers of Iran's military entrenchment in Syria. Iran seeks to use Syrian territory to attack Israel for its professed goal of destroying Israel. This morning, Iran brazenly violated Israel's sovereignty. They dispatched an Iranian drone from Syrian territory into Israel, and this demonstrates that our warnings were 100% correct. Israel holds Iran and its Syrian host responsible for today's aggression. We will continue to do whatever is necessary to protect our sovereignty and our security.
Le Premier ministre israélien. Et maintenant la réaction iranienne avec le reportage de Shiavaz Ghazi pour RFI depuis Téhéran.
Le porte-parole de la diplomatie iranienne a qualifié de ridicule les accusations israéliennes sur le survol du territoire israélien par un drone iranien venu de Syrie. Pour couvrir ses crimes dans la région, Israël a recours à des mensonges contre les autres pays. La Syrie a le droit à la légitime défense face à Israël, a déclaré Bahram Rassemi. L'Iran est l'ennemi juré d'Israël et soutient militairement le régime syrien de Bachar al-Assad. Bahram Rassemi a également ajouté que l'Iran n'avait pas de présence militaire en Syrie et a envoyé sur place uniquement des conseillers militaires à la demande du gouvernement syrien. C'est la première fois que l'armée israélienne dit ouvertement avoir visé des cibles iraniennes en Syrie, où Israël a effectué ces dernières années de nombreuses frappes contre l'armée syrienne ou le Hezbollah libanais soutenu par Téhéran. Dans un communiqué de leur commandement conjoint, les forces alliées du régime syrien, dont le Hezbollah libanais, ont également nié toute violation de l'espace aérien israélien par un drone. Selon le communiqué, les frappes israéliennes ont pris pour cible une unité de drone utilisée pour la collecte d'informations dans la lutte contre les organisations terroristes, notamment le groupe État islamique.
Shiavaz Ghazi pour RFI. Au moins 19 morts et des dizaines de blessés après le crash d'un autobus à Hong Kong. Le conducteur de l'autobus a été arrêté selon la police. Et puis un autre autobus s'est écrasé sur l'île de Java en Indonésie faisant 27 morts. Plusieurs personnes ont été hospitalisées. Le chef de la Corée du Nord a lancé une invitation à son homologue du Sud et ce serait une première en 10 ans si les deux présidents se rencontrent. C'est la sœur du président nord-coréen qui assiste aux JO d'hiver qui a donné la lettre d'invitation au président de la Corée du Sud, selon ce porte-parole.
Kim Yo-jong handed over Kim Jong-un's letter, which reflects his willingness to improve inter-Korean relations. He is asking President Moon to visit the North when it's convenient for him. President Moon responded to this by saying, let's make this happen by creating suitable conditions.
En Australie, le ministre des Finances, Matthias Cormann, défend l'octroi d'emploi à la partenaire du vice-premier ministre Barnaby Joyce à deux reprises l'année dernière dans deux autres bureaux des représentants parlementaires du Parti national. C'était au Parti national de décider où Vicky Campion serait employée, dit le sénateur Cormann. La chef adjointe du Parti travailliste, Tania Plibersek, a déclaré sur l'ABC ce matin que les emplois ont été créés spécialement en addition aux autres emplois qui existaient déjà dans les bureaux concernés.
It does appear that these jobs were created in addition to the jobs that already existed in these offices, and they were at quite high rates of pay. I think that is something that either the Prime Minister who has ultimate responsibility for signing off on these things or the Deputy Prime Minister ought to answer questions about. Was this job necessary? Was there work to be done at this skill level? What was the case made for having to hire someone additional into those offices?
Tania Plibersek sur l'ABC. L'ancien Premier ministre Kevin Rudd sera à Canberra la semaine prochaine dans le cadre du 10e anniversaire des excuses faites, je cite, « la génération volée de la communauté aborigène en Australie ». Le Premier ministre Malcolm Turnbull doit aussi présenter le rapport sur la stratégie « Close the Gap » pour resserrer les écarts dans le domaine de la santé et sociale entre les autochtones et les non-autochtones. On écoute le ministre de la Santé autochtone, Ken Wyatt.
Look, I think the whole process of engagement needs to improve at all levels, at state and territory, Commonwealth, but also local government, because local governments also play a significant role.
A bit greater Indigenous involvement?
Yes, greater Indigenous involvement. And the Prime Minister has reiterated that. He wants to see, and he's made it very clear to his ministers, he wants us to work with Aboriginal people.
Voilà Ken Wyatt, le ministre de la Santé autochtone. Un projet pour réformer la sélection des candidats pour représenter le Parti libéral dans les circonscriptions du pays a été partiellement rejeté par les délégués du parti en Nouvelle-Galles du Sud lors d'une conférence. Le projet était soutenu par deux anciens premiers ministres, Tony Abbott et John Howard, et aurait donné plus de pouvoir aux membres de choisir les futurs candidats aux élections fédérales, des États et des territoires du pays. Écoutez l'ancien premier ministre Tony Abbott qui promet de continuer le processus de réforme.
The Liberal Party is still too much of an insider's club, but it's much less of an insider's club than it was. And as far as I'm concerned, we stay in and fight for further democratic reform and fight to see the re-election of good governments at the state and federal level.
Tony Abbott est dans cette même conférence. Le Premier ministre Malcolm Turnbull a demandé à ce que plus de femmes soient choisies dans des circonscriptions où elles seraient capables d'être élues.
We must increase the number of women in our parliamentary teams. We're not a party of quotas, but we should not kid ourselves about this issue or push it to one side. We need more women pre-selected in safe and winnable seats.
Malcolm Turnbull, l'ancien ministre travailliste, l'ancien ministre du Trésor, Wen Swan, annonce sa retraite de la vie politique. Il est l'actuel député de la circonscription de Lilley au Queensland. Il est fier d'avoir géré la crise financière mondiale de 2008. On l'écoute.
Our successful response to the global financial crisis was defining for our nation, for our young government, and it was a career-defining moment for me personally. Our policy response was and is recognized as the best anywhere in the world.
Wayne Swan. Mary Lou MacDonald a été élue présidente du Sinn Féin. Elle remplace Gerry Adams, qui a pris sa retraite. Elle a présenté ses projets lors d'un discours hier.
There is no value in refighting the battles of the past. The war is long over. There is no value either in engaging in a blame game. We don't have to agree on the past. There is no single historical narrative. We must only agree that the past is never again repeated.
Mary Lou MacDonald, nouvelle présidente du Sinn Féin. Le parti indépendantiste Corsica Libera a dénoncé hier les discours du président français Emmanuel Macron qui était en Corse mardi dernier, parlant, je cite, de révisionnisme et de négationnisme. Le point avec Véronique Rigolet pour RFI.
Dans les rangs nationalistes, le discours et la fermeté du président Macron ne passent toujours pas, vraiment pas, pour les indépendantistes de Corsica Libera, parti présidé par Jean-Guy Talamoni, l'un des hommes forts de l'île, qui dénonce les discours, je cite, haineux, provocateurs et méprisants d'Emmanuel Macron. Dans le même communiqué, Corsica Libera reproche notamment au chef de l'État l'amalgame offensant visant à mettre les assassins du préfet Erignac au même plan que des terroristes islamistes. Une attitude négationniste, dit encore le parti indépendantiste, sur les questions des prisonniers politiques, sur le statut de résident. Le parti appelle ainsi l'ensemble du peuple corse à rester mobilisé et à soutenir ses élus pour obtenir notamment l'inscription de la Corse à l'article 74 de la Constitution. Une inscription que le chef de l'État a promis d'étudier, mais pas nécessairement sous cet article qui conférerait à la Corse de très larges pouvoirs législatifs.
Voilà, c'était Véronique Rigolet. L'organisation humanitaire britannique Oxfam est accusée d'avoir couvert des faits de prostitution en 2011 à Haïti. Selon le quotidien britannique The Times, des employés d'Oxfam auraient engagé de jeunes prostituées au cours d'une mission. Précision de Marie Darras pour RFI.
L'organisation humanitaire qui siège à Oxford s'embourbe un peu plus dans un scandale sinistre. Le gouvernement britannique a annoncé vendredi qu'il réexaminait sa coopération avec Oxfam à la suite d'informations divulguées par la presse britannique. Selon l'enquête publiée par le Times, des groupes de jeunes prostituées étaient invités pour des soirées sexuelles dans des maisons et des hôtels payés par Oxfam. Une source citée par le quotidien dit même avoir vu une vidéo d'une orgie avec des prostituées portant des t-shirts d'Oxfam. Le gouvernement britannique a ordonné vendredi à Oxfam de remettre à la Charity Commission, l'organisme britannique de contrôle des associations humanitaires, ses documents sur les employés impliqués dans l'affaire de Haïti. Le Times affirme qu'Oxfam n'avait pas averti les autres organisations humanitaires du comportement de ses employés impliqués dans ses activités, ce qui a permis à ses anciens salariés d'obtenir par la suite des missions auprès de personnes vulnérables dans d'autres zones sinistrées. Pire encore, certaines organisations comme l'ONG française Action contre la faim affirment avoir reçu des références positives de la part d'anciens membres du personnel d'Oxfam concernant un de leurs anciens directeurs pour Haïti, démis de ses fonctions après avoir admis avoir engagé des prostituées.
Marie Darras, les JO d'hiver en Corée du Sud au programme ce dimanche. Première épreuve de la finale du 10 km sprint en biathlon, le bobsleigh, le snowboard, le patinage artistique en équipe et la descente de ski messieurs annulée à cause des vents trop forts. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, Perth maximal de 32 degrés, Adelaide 27, Melbourne 21, Hobart 19, Canberra 32, Sydney 31, Brisbane 36, Cairns 32, Darwin 31 et à Alice Springs maximal de 42 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. Le Premier ministre israélien défend les frappes de Tsahal en Syrie et met en garde l'Iran. Les nouvelles concernant le vice-premier ministre Barnaby Joyce et son partenaire Vicky Campion continuent à dominer l'actualité en Australie. Les JO d'hiver et le président sud-coréen rencontrent la sœur de Kim Jong-un à Pyeongchang. Le président nord-coréen invite le président sud-coréen à venir à Pyongyang. Fin du journal et merci de rester avec nous.